France Inter. Aujourd'hui, nous accueillons trois autrices qui, chacune à leur manière, font de la lecture un lieu de métamorphose.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, au livre, etc., Lilia Hassen.
Notre première invitée poursuit depuis plusieurs décennies un travail singulier où dialogue la lecture, la mémoire et les voyages intérieurs. Essayiste, traductrice et fine passeuse des lettres britanniques, Christine Jordis publie Passion anglaise aux éditions Bouquin. Dans ce livre, elle propose un parcours personnel au cœur de l'imaginaire d'Outre-Manche, où l'Angleterre se dessine comme une géographie affective, façonnée par les écrivains et les souvenirs de lecture. Les figures littéraires croisées ne sont pas seulement des références, elles deviennent des compagnons de route, révélateurs d'une sensibilité faite de retenue, d'ironie et d'attention aux nuances. Face à elle, Lolita Pille signe un texte hybride entre essai personnel et manifeste pour la fiction, Antigone Reine aux éditions du Cherche Midi. Loin d'une simple réflexion théorique, elle y propose une exploration incarnée de la lecture et de l'écriture comme expérience de transformation, à travers une constellation de références de la grande tradition romanesque européenne aux séries contemporaines. Elle défend l'idée que la fiction constitue un espace éthique singulier, un lieu où on peut éprouver la vie d'autrui, traverser d'autres identités et ainsi déplacer les frontières du moi. Et puisqu'on parle de transformation, j'aurai le plaisir de recevoir en fin d'émission la linguiste et chercheuse au CNRS Irène Fenoglio pour son ouvrage « Tout héritage est une métamorphose » paru chez Albin Michel. Dans ce texte, elle mène une archéologie de la tendresse et du souvenir pour traquer les traces immatérielles laissées par ses parents entre le récit de sa mère et le mutisme de son père. Loin de concevoir l'héritage comme une simple reproduction, elle en propose une vision dynamique, un processus vivant de déplacement, de transformation et de réinvention. Vous écoutez « Au livre, etc. » C'est parti.
Au livre, etc.
Christine Jordis, Lolita Pille, Irène Fenoglio, bonjour à toutes les
bonjour.
Trois.
Bonjour.
Je suis très heureuse de vous recevoir. Vos ouvrages ont un point commun, la liberté. Par la lecture, l'écriture, on peut s'arracher à une identité imposée et découvrir sa propre loi. Christine Jordis, vous avez trouvé votre maison dans la littérature anglaise sans y être née. Vous écrivez « On reconnaît une langue, une littérature comme on reconnaît un lieu sans l'avoir auparavant jamais vu parce qu'on a senti instantanément qu'il correspondait à quelque chose en nous. » Qu'est-ce qui vous a appelé dans cette culture, dans cette langue ?
Bien, je crois que c'est arrivé très tôt dans ma vie et que c'est parce que je suis française, c'est-à-dire d'ailleurs par rapport à l'Angleterre, que j'ai tant aimé ce pays. Ayant pâti ou bénéficié, selon le point de vue, d'une éducation comme on en avait, et peut-être parfois encore très stricte, j'ai eu tout à coup en Angleterre, où on m'avait envoyé, pour apprendre la langue, une espèce d'illumination en sentant pour la première fois une immense liberté.
Irène Fenoglio, ça doit vous parler, ce que dit Christine Jordis. Et pas seulement parce que vous êtes une linguiste.
Mais oui, cette imprégnation émotionnelle d'une langue, oui, je la comprends très bien.
Dans votre livre, vous refusez la métaphore des racines qui sont figées, qui renvoient au passé. Vous dites que la souche est un arbre mort et vous préférez dire que nous avons des pieds pour marcher et nous éloigner des sources.
Oui, je pense profondément cela. Je pense que dire de quelqu'un qu'il a telle ou telle racine, c'est l'assigner à une place particulière dont il aura du mal à sortir. Or, je pense que toute l'évolution de notre généalogie humaine dit que nous sommes redressés et nous pensons parce que nous nous sommes redressés sur nos jambes. Tous les anthropologues aujourd'hui disent que le propre de l'homme est de marcher. Donc c'est une métaphore, si vous voulez, dont je me méfie parce que elle imprègne tellement les discours aujourd'hui les plus fascistes, les plus racistes, les plus assignatoires à une identité propre et unique que j'ai réfléchi à cette métaphore pour la refuser.
Et vous, Lolita Pille, quelle est votre patrie ? En lisant, je me suis dit que c'était peut-être la fiction.
C'est la littérature, c'est certain. Ça pourrait être aussi, d'une certaine manière, la littérature anglaise dont parlait Christine Jordis.
On dit Jordi ou Jordis ?
Vous dites Jordis et vous dites Christine, surtout.
Christine. J'ai lu Léo d'Hurlevent d'Emily Brontë quand j'avais, 8 ou 9 ans, en Écosse. J'étais en vacances chez une tante. Et alors, en lisant Emily Brontë, je me suis rendu compte que que je ne vivais pas dans la réalité ou que je vivais dans une réalité qui était très étriquée, très, très fade. Je me suis mise à fantasmer sur la Lande, mais alors, dans mon esprit, la Lande, c'était un espace... D'ailleurs, des racines extrêmement tortueuses, un vent absolument permanent, c'était une sorte de jungle. Quand j'ai découvert la véritable Lande, j'ai été très étonnée par l'espèce d'aridité et de dénuement de cette Lande. Et en fait, pourquoi est-ce que les Hauteurs-le-Vent sont devenus une sorte de patrie que j'ai aussitôt choisie, comme j'ai choisi les Brontës pour ma famille, mes sœurs, etc. Parce que d'autres valeurs, d'autres lois, d'autres hiérarchies, une hiérarchie, une espèce de hiérarchie de l'âme, avaient cours dans cette espèce de royaume. Et moi, je n'avais que mon enfance un peu étriquée, un peu enfermée, mes parents, et puis un peu la télévision, mais voilà. Que
vous avez des points communs avec Christine Jordis, effectivement. Vous distinguez...
Nécessairement.
Vous distinguez dans votre livre la vie un peu officielle, justement, d'une vie clandestine, qui est cet espace littéraire. Et vous dites que cette vie clandestine est transgressive, déchaînée, équivoque, ambiguë, indéfinissable, vertigineuse.
En fait, j'écrivais des longues lettres aux personnages des romans, et aux écrivaines et aux écrivains. Il y a une différence entre la réalité et la fiction qui doit résider dans le passage à l'acte. Et je considère la fiction, surtout la fiction gothique que j'aime beaucoup, mais aussi une fiction opposée à la fiction gothique qui serait celle de Jane Austen. En fait, comme on a commencé à parler de littérature anglaise,
oui, on va faire une émission sur la littérature anglaise.
Donc, dans cette littérature gothique, je considère ça comme une sorte d'exploration. C'était le caractère de sublimation des pulsions qui est propre à l'art.
C'est ce qui vous a plu dans la littérature gothique en particulier.
Mais disons que ça marche très bien sur moi. Ça m'a vraiment beaucoup assagi. Je pense que si j'avais pas eu la littérature. Particulièrement des formes de littérature extrêmement ténébreuses et tourmentées, je serais peut-être hors la loi et actuellement dans une prison au lieu de Radio France.
Christine Jordis, à quoi sert la fiction ?
Elle est, comme pour Lolita, quelque chose d'absolument nécessaire. Mais je parle de la fiction que je crée en permanence. Moi, ma vie est accompagnée d'un roman permanent que je me dis à moi-même. Je trouve que la société est quelque chose qui nous mutile, qui nous enferme, qui est faite de réducteurs de tête. On nous assigne un chiffre à un chiffre auquel il faudrait correspondre. Moi, je ne me sens nullement correspondre à un âge. Je trouve qu'on est vraiment enfermé de toutes les façons par les injonctions de la société que je ne supporte pas. Maintenant, c'est l'aide à mourir qu'il faut refuser. Enfin, toutes ces choses-là me hérissent. Vous voyez,
sur le jeunisme.
J'ai écrit, non pas sur le jeunisme, j'ai écrit des tribunes que le monde a bien voulu passer.
C'est ce que j'ai vu.
Sur mon désir de voir non pas une loi aboutir, mais au moins l'aide à mourir autorisée. Je trouve que nous avons la liberté de notre corps et que nous devons l'avoir. Et qu'au nom d'une collectivité qui soi-disant pense différemment, on n'a pas le droit de nous ôter notre liberté. Mais la société le fait, la société française en particulier. C'est pourquoi cette société m'est très très lourde, très pesante et désagréable. Et la fiction m'aide à m'en évader. Et celle de l'Angleterre en particulier, je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai toujours trouvé dans la fiction anglaise cette liberté que même la fiction française ne comporte pas. Vous avez des chats qui sourient du haut des arbres, et ça me plaît. Vous avez des libellules qui jouent de la trompette, vous avez des enfants qui veulent rester enfants toute leur vie. Et tout ça est possible. Le principe de réalité décrit par Freud ne joue pas dans la littérature anglaise. Tout vous devient possible. Et c'est donc cette liberté mentale, spirituelle, comme physique, qui me va, qui me rend heureuse, ou tout au moins qui m'aide à vivre.
Irène Fenoglio, vous dites que la littérature est le printemps du savoir.
Oui.
Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette expression ?
Oui, d'ailleurs, je suis assez d'accord avec ce que vous dites de la fiction toutes les deux, j'élargirai la littérature. L'essentiel de mon travail a consisté à travailler en sciences humaines, donc à essayer d'accumuler du savoir, de faire des recherches, de poser ce savoir et d'en faire la critique aussi. Les savoirs antérieurs ou même celui que je viens moi-même de poser sur une... Et la littérature, c'est... Oui, je dis qu'elle est le printemps du savoir parce qu'elle ouvre des bourgeons. Des bourgeons qui vont s'ouvrir ou pas. On ne sait pas où ils vont s'ouvrir. La littérature, vraiment, essaime. Et on ne sait pas. On ne sait pas quand. On ne sait pas où. On ne sait pas à quel moment chez une personne. Et un brin de littérature peut vous revenir à un certain moment de votre vie et tout d'un coup, un monde s'ouvre. Et voilà, c'est pourquoi je l'appelle le printemps du savoir.
Vous écrivez, la littérature est émotionnelle, elle est le printemps du savoir, elle n'explique pas, elle ne hiérarchise pas, elle ne juge pas, elle fait émerger des bourgeons, elle printanise. Et puisqu'on parle de bourgeons, dans vos trois livres, il y a un autre point commun, on en a un petit peu parlé avec Christine Jordi, c'est la place accordée à l'esprit d'enfance. On en parle quand on revient, mais avant ça, on écoute Yael Naïm, La fille pas cool.
Je suis pas la fille qui ose. Je suis pas la fille qui pose, pas la fille qui fait rire, pas de grandes choses à dire, pas la fille à la mode, jamais compris les codes, pas vraiment de conviction, quelques bêtes addictions, pas comme ça un peu folle, pas du tout une idole. Pas une briseuse de cœur, j'avais trop souvent peur. Pas une grande sportive, pas vraiment combative. Voilà tout ce que je ne suis pas. Alors moi je suis quoi? Je suis la fille peu cool. Pas trop, j'sais sauter mais pas haut, assoiffer mais pas tôt, à confondre au faux, toujours chercher ma place, en ce banal et trop classe, au milieu de quelque part, j'me rends compte tôt ou tard, je fuyais les fous.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. Nous sommes toujours en compagnie des écrivaines Christine Jordis, Lolita Pile et Irène Fenoglio. J'emploie le mot écrivaine à dessein, Lolita Pile. Vous savez pourquoi. Vous écrivez dans votre livre Antigone Reine. Combien d'autrices m'ont corrigé sèchement lorsque je les qualifiais d'écrivaine ? Une attitude compréhensible étant donné que le monde fait rimer écrivaine avec veine.
Et écrivain avec divin. Là, je crois qu'on ouvre une boîte de Pandore.
On est là pour ça.
Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on projette sur les mots, sur la langue. Je crois qu'on peut parler de test de Rorschach. C'est ce test de Rorschach qui est un test psychologique où les individus sont invités à décrire une espèce de tâche informe, à dire ce que cette tâche représente. Les psychologues estiment que ça dit quelque chose de notre intériorité et de notre personnalité, davantage que de la forme objective de la tâche. Donc je pense que, en effet, lorsqu'on écoute, lorsqu'on se renseigne sur les débats qui entourent ce qu'on appelle la féminisation des noms, déjà, au sujet du terme de féminisation des noms, rien ne va. Il faudrait déjà repartir de l'idée qu'on pourrait considérer que les noms féminins préexistent, et qu'il ne s'agit pas d'une sorte d'altération lorsqu'on féminise un nom. Mais en tout cas, voilà, toujours est-il que écrivaine rime avec veine, et on entend des cris d'orfraie de la part de gens qui simplement ne sont pas habitués à entendre. C'est une question d'habitude. Ce qui est effroyable, c'est à quel point, sur l'habitude et sur ses propres projections, on peut apposer le sceau d'une connaissance sacrée. Écrivaine rimerait avec veine, écrivain avec divin. Ce qu'il y a de plus regrettable, c'est que ces arguments-là peuvent être très retentissants de la part de femmes, d'écrivaines elles-mêmes, qui trouvent dégradant d'être associé non pas à la noble race des écrivains aux écrits divins, mais à la vile espèce des écrivaines, c'est-à-dire des copies ratées et vaines de ces dieux, seraient les écrivains.
Là, voilà, je suis obligée de me tourner vers Christine Jordis, qui a beaucoup parlé des écrivaines. Est-ce que ce mot vous plaît ?
Moi, on m'a demandé à propos du livre que j'ai écrit. Mon génial éditeur me dit, écoutez, si vous mettez écrivain, c'est maintenant devenu un manifeste que vous êtes contre la féminisation des mots. Moi, je n'avais pas du tout envie de faire de manifeste, tout au moins sur ce plan. C'était bien égal d'être autrice, qui est un vieux mot, je signale, et donc peut-être plus acceptable. Écrivaine, ça sonnait avec veine. Mais bon, s'il faut prendre parti, je n'y tiens pas vraiment. D'autant plus que j'ai vécu côte à côte, je peux dire, avec des écrivains veines, très connue comme Doris Lessing, qui aurait été absolument furieuse qu'on la traite d'écrivaine. Parce que quand vous écrivez, est-ce que vraiment vous avez un sexe ? Est-ce que c'est votre sexe qui écrit ? Non, disait-elle, je suis à la fois une femme et un homme, et donc écrivain, le mot général pour elle, suffisait tout à fait. Et je pense qu'à l'inverse de Virginia Woolf, beaucoup de femmes écrivains, tout au moins de l'époque, c'est-à-dire pas tout à fait de la nôtre, considère que, bon, elle n'avait pas besoin d'être signalée en tant que sexe. Elle se sentait supérieure à tout ça. Ou tout au moins, participer des deux sexes. Et pourquoi pas ?
Et d'ailleurs, c'est ce que vous dites, Lolita Pile, dans le livre, c'est aussi que les grands auteurs, les grandes autrices ont dépassé complètement, ont explosé la notion de genre et de sexe.
Oui, moi je suis tout à fait pour la mixité personnelle. Par rapport à cette question d'écrivain et d'écrivaine, j'ai encore tendance, moi-même, quand je ne réfléchis pas étourdiment, à dire je suis écrivain. Tant j'ai grandi dans un temps où il était impensable de féminiser ce nom, mais les noms reflètent les réalités, oui, et les vérités. À l'époque où j'ai grandi, vraiment, la réalité de l'écriture incarnée était, c'était l'écrivain, et les femmes qui transgressaient cette espèce d'interdit de l'écriture devenaient ces êtres précisément hybrides, mixtes, Inclassable et très souvent raillé. J'en parle dans Antigone Reine. Baudelaire disait qu'aimer une femme intelligente était un plaisir de pédéraste. Mais peut-être aurions-nous dû recommander à Baudelaire de recourir plus souvent au plaisir pédéraste.
Je vous interromps une seconde, Lolita Pille, parce que j'aimerais savoir, Irène Fedoglio, ce que vous en pensez de ce mot d'écrivaine.
Il faut l'accepter. Moi, je pense qu'il faut que chacun se désigne comme il l'entend, dans toute liberté. Pour ma part, je préfère, est plus adapté le mot autrice, puisque je ne fais pas que écrire et pas seulement de la littérature. Donc, autrice me va très bien. Je signe.
Christine Jordis, je le disais tout à l'heure, pour vous, la littérature a été le territoire d'une enfance retrouvée. Vous confiez n'avoir pas vraiment vécu la vôtre, marquée par une atmosphère lourde, vous en avez parlé, et notamment la surveillance morale de votre mère. En fait, vous vous êtes sentie vous-même comme un personnage victorien ?
Oui, au départ, je n'étais pas féministe. C'est tout à fait vrai. Parce que les femmes, à travers celle que j'ai connue la première, sans la nommer, m'ont inspiré non seulement de la méfiance, mais de l'aversion, je dois dire. Et il a fallu des années pour me corriger et en venir à les aimer. Mais cette enfance que j'ai eue, vous savez, c'était un 19e siècle attardé. Le 19e siècle s'est attardé jusque dans les années 60. En 63, Philippe Larkin a dit, un écrivain anglais merveilleux, « On a découvert le sexe, malheureusement trop tard pour moi ». Eh bien moi, dans ma famille, ma mère tout au moins, ne l'avait sûrement pas découvert. Et donc, j'étais parfaitement appropriée à l'Angleterre victorienne, et j'avais donc en commun avec elle cette maîtrise des instincts, cette éducation, d'où sort le sens de l'humour d'ailleurs. Vous voyez tout à distance, parce qu'on vous a appris à vous tenir en bride, à tenir vos émotions. Et donc, ça m'a sans doute préparé, c'est là un des avantages de cette éducation, à comprendre les Anglais, ceux du 19e comme une bonne partie du 20e, qui était un peuple un peu moins maintenant, qui a fait sa mutation grâce à la musique. Mais quand vous regardez la littérature, Jane Austen, que vous aimez, à l'inverse d'Emily Brontë, bien sûr, ce sont des Molly Keane, que j'ai étudié aussi, Anita Bruckner, Barbara Pym, écrivains merveilleuses, elles ont été tenues par une Angleterre très rigoriste. Et moi j'adore par exemple les romans de Barbara Pym, où vous lisez, comme en bibliothèque, et là je pense à Irène, écrit sur vous-même, sur votre comportement, parlez peu, marchez doucement. C'était absolument la base de l'éducation. Ça rend des gens très agréables, je trouve. Mais eux souffrent beaucoup.
À un moment, vous donnez une clé de lecture importante pour votre livre Passion anglaise. Je vais vous citer parce que c'est le moment où on comprend la singularité justement de la littérature anglaise. Vous en avez un peu parlé tout à l'heure. Pourquoi, se disent les passionnés, pourquoi est-ce que je l'aime à ce point, cette littérature ? Peut-être y trouve-t-il cet esprit de fantaisie, ce goût du nonsense, qui n'est pas notre absurde français. Cette mise en liberté de l'esprit qui flâne et musarde à son gré, sans se soucier des barrières posées par cet éternel empêcheur de tourner en rond, la rationalité, quand ce n'est pas le triste principe de réalité qui ne cesse de s'imposer à nous, de nous intimider. Rien de tel dans le monde de la littérature anglaise. Les chats y sourient du haut des arbres, puis s'évanouissent. Les poissons volent, et les libellules jouent de la trompette. L'on y marche la tête en bas, un lapin blanc tire en hâte une montre ronde de son gousset, un enfant à la recherche de son ombre oubliée décide de ne jamais grandir, et pour nous qui lisons, le soleil brille la nuit. Quelle est votre définition du nonsense, Christine Jordis ?
Alors, vous savez, j'ai écrit une thèse sur l'humour noir, ce qui n'est pas le nonsense, mais je me suis aperçue à ce propos que les Anglais étaient ennemis, ou tout au moins n'aimaient guère, au point où nous l'aimons, les abstractions et les définitions théoriques. Le nonsense, l'absurde français, ça n'est pas du tout la même chose. Parce que l'absurde est vraiment un concept assez difficile à définir. D'ailleurs, on a tout un théâtre de l'absurde. On en a fait, encore une fois, une catégorie et des tas de théories à ce principe. Mais le nonsense anglais, les nursery rhymes, le good nonsense, c'est peut-être simplement ce qui n'a pas, ce qui ne peut pas être défini justement, mais qui a cours et qui est cette évasion, cette rupture de toutes les contraintes qui nous enserrent et qui nous empêchent de vivre librement. Ils ont besoin de ça. Et voilà, c'est une réaction naturelle. C'est beaucoup plus, ça accompagne la vie, beaucoup plus que ça n'existe sous forme de pensée. Et cette thèse sur l'humour noir, c'était assez drôle, parce que je me souviens de mon maître de thèse, et on se disait, mais l'humour noir, black humour, ça n'existe pas. Black humour, il n'y a pas de black humour. Je me souviens, j'avais posé la question à Laurence Durel, qui s'était moqué de moi. Je m'étais dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? En Angleterre, vous avez grim humour, qui est une chose un petit peu différente, mais qui vient aussi de l'usage. Et Dieu sait que c'est absolument courant. Il y a une méchanceté qui se déploie, un humour justement des plus noirs, mais qui n'appellerait pas black humour, humour noir. Par exemple, dans les contes de Saki, que j'ai étudié, où vous avez des tas de choses abominables qui se passent. C'est un adolescent en révolte, Saki, H.H. Munro, du début du XXe siècle. Et ça ne se faisait pas de tuer les gens. Ça ne se fait toujours pas, mais ça arrive, hélas. Mais lui, lui, il les tuait carrément avec tout un tas d'animaux sauvages, comme un furet, qu'un petit garçon qui s'appelait Conradin soignait secrètement dans une cabane parce qu'il était élevé par une horrible vieille tante qui lui faisait subir tout un tas de misères. Et il faisait une prière à son furet qui était devenu un dieu. Et un jour, il a surveillé le furet qui allait subrepticement dans cette cabane. Non, le furet y était, mais c'est la tante qui voulait voir pourquoi il surveillait cette cabane et lui faisait des prières. Donc la tante s'y dirige et la fois d'après, il ne voit pas la tente sortir, mais il voit le furet avec une tache de sang sur les mâchoires. Donc, il a compris que enfin sa tante était morte, et tout le monde s'écrie « Mais le pauvre petit, le pauvre petit !» Et lui, se beurre une tartine. Voilà.
Ouais. Ça, c'est l'esprit,
l'esprit. C'est l'esprit anglais, vous voyez. Et ça, je trouve que c'est quelque chose de bien. On ne va pas tuer, mais on imagine, quand on est écrivain tout au moins, tout un tas de choses qui peuvent arriver et qui vous débarrasse des assis, des installés, des puissants, de tous ces gens qui nous oppriment, des mères de famille assommantes.
C'est voilà. Encore une fois la liberté.
Vive la liberté. Et grâce à des animaux sauvages qui surgissent de partout et qui tuent comme il faut.
Chaque semaine dans l'émission, nous recevons des libraires. Et cette semaine, Christine Jordis, direction la Belgique, pour retrouver Raphaël Longo de la librairie Livre au Trésor à Liège. Bonjour Raphaël.
Bonjour Lilia, bonjour Christine.
Bonjour.
Alors vous adorez la littérature anglaise, vous adorez Christine Jordis, alors c'est peu dire que son ouvrage vous a fait lire, voyager, rêver.
Oui, j'avoue que je n'ai pas caché ma joie, chère Christine, quand on m'a annoncé votre venue, car j'arpente depuis quelques années déjà les bords de la Tamise à vos côtés, à la découverte des gens qui la peuplent et des écrivains comme vous qui les décrivent si bien. Votre anthologie Passion anglaise est le genre de livre épais qui a vocation à résider sur mon bureau, rempli de marque-pages, post-it et autres annotations sur les pages concernant les auteurs les plus aimés et inspirants de cette littérature que j'adore. J'aime aussi la subjectivité de votre approche, qui décloisonne une culture monumentale quand même, en permettant de s'y faufiler et de lire de façon transversale, comme un promeneur, en déambulant à travers un XXe siècle d'une créativité exceptionnelle. Mais quelle joie de relire ainsi vos analyses sur Virginia Woolf, de se replonger dans les portraits d'auteurs issus des Angry Young Men, par exemple, ce mouvement prolétaire du nord de l'Angleterre qui préfigura la révolution punk, ou de découvrir au détour d'une page une interview de David Loge autour de l'auteur, le magnifique livre qu'il a consacré à Henry James et qui n'était pas inclus dans la première version de votre livre.
Ce que vous admirez aussi, Raphaël, ce sont les paysages que la littérature donne à voir.
Votre démarche, Christine, a ceci de bouleversant que le temps de l'introspection liée à la lecture est toujours suivi par le temps du partage. Après la lecture solitaire et intériorisée, vient le moment de la rencontre et du voyage. On ressent bien la joie que vous avez eu à rencontrer tous ces auteurs, du nord au sud de l'Angleterre, et votre amour pour les lettres et le terroir anglais est contagieux. Alors que l'on soit novice ou amateur, on peut trouver son bonheur dans cet ouvrage. Et alors, vous pourriez faire partie du vénérable ordre des interprètes de la pensée anglaise, ordre que vous citez, créé par Voltaire, qui fut traducteur de Shakespeare, et fasciné lui aussi par la libre pensée et la littérature d'outre-Manche.
Est-ce que vous avez envie de réagir, Christine Jordis?
Bah écoutez, je suis émerveillée. Me voilà de quoi garder mon épitaphe. J'ai toujours rêvé à l'épitaphe que j'aurais. Non, mais ça me rend très heureuse. Parce que c'est vrai que Lolita et Irène le diraient, qui sont ici aussi. Écrire, c'est un travail très solitaire. Mais constater, on écrit du plus profond de soi-même, en espérant que ce profond correspond au profond d'autres personnes, évidemment. Mais de le constater, de l'entendre, comme ce monsieur que j'ai peut-être rencontré à Bruxelles, mais en tout cas que j'entends aujourd'hui, c'est un grand bonheur. C'est une justification d'une vie, puisque ça fait quand même une vie que j'y ai consacrée. Donc c'est un moment dont je me souviendrai. C'est mémorable, c'est important.
Alors, Raphaël Longo, vous aviez une question pour Christine Jordis.
Alors oui, dans votre livre, donc, on parle beaucoup de ces magnifiques espaces. Donc, toute la deuxième partie, c'est sur les paysages liés à la littérature. Mais vous parlez aussi beaucoup, et ça je suis tout à fait d'accord avec vous, de l'importance des personnages dans la construction des récits et des livres anglais. Cette impression que moi je peux avoir et que je trouve on a avec la littérature anglaise, que les personnages sont comme vivants, réels, et qui partagent littéralement votre vie durant le temps de la lecture, et donnant un peu au romanesque quelque chose de réel, et au réel quelque chose de romanesque. Du coup, ma question, elle est simple, c'est avez-vous un personnage fétiche dans la littérature anglaise ?
J'ai un personnage fétiche, absolument. Le personnage qui a compté le plus, c'est non seulement Cathy Earnshaw dans Wuthering Heights, Les Hauts du Hurlevent, mais Emily Brontë elle-même. Alors bien sûr, j'ai tort, du point de vue de la critique, d'assimiler une autrice à son personnage. Mais pour moi, c'est indissociable en le cas, parce que c'est un roman d'être. C'est pas un roman qu'on tient à bout de bras. C'est un roman totalement habité par la personne qui l'a écrit. Et donc, c'est elle.
Vous n'avez pas vu le film encore ?
Le film ?
Non, mais attendez-vous. Est-ce qu'on pourrait ne pas en parler ?
Moi, je ne l'ai pas vu, mais...
C'est assez drôle, parce que déjà, j'avais été invitée à la radio pour parler d'un premier biopic de Francis O'Connor. Oui. Fort heureusement, j'étais avec un cinéaste qui s'appelait Pascal Boniface, je crois, et on était tous les deux aussi scandalisés. On voyait, c'était Catherine Earnshaw qui dévalait la colline du Yorkshire. Elle avait tatoué sur le bras, tenez-vous bien, Freedom of Thought, donc liberté de la parole, et il y avait une liaison torride avec le vicaire de son père. Vous vous souvenez d'une chose pareille ?
Bon. C'était un blasphème.
J'étais même pas scandalisée. Et là, vu ce qui se produit, c'est pas le livre.
Je crois que c'est pire.
Non mais, c'est sûrement, pour quelqu'un qui aime le livre, c'est comme si vous allez cracher sur un tabernacle. Donc, moi, je sais que j'ai tort, puisqu'il faut avoir le courage de tout regarder, de tout lire. Mais pourquoi est-ce que j'exigerais de moi d'avoir ce courage ? J'adore ce livre. Il est en moi. Je ne vais pas réviser, parce que Tartampion a eu l'idée d'en faire un film.
Vous avez bien raison.
Vous ne trouvez pas ?
Écoutez, on en parle dans quelques instants. Merci beaucoup Raphaël Longo. J'aimerais justement qu'on discute du rôle des personnages dans la fiction avec vous, notamment Lolita Peel, puisque vous en parlez beaucoup, et que votre livre est à lui seul un atelier d'écriture.
Je m'en souviens comme si c'était.
suffit bien, même si c'était à refaire. Du début, du début. La vérité. 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 Je me souviens comme si c'était hier.
Bienvenue ou re-bienvenue dans l'émission Au Livre, etc. C'était Junior, la vérité nue. Et nous sommes toujours en compagnie de Christine Jordis, Irène Fenoglio et Lolita Pile. C'est l'heure de l'atelier d'écriture.
France Inter, Radio-Canada, RTS la première, RTBF la première, Au Livre, etc. Lilia Hassen.
Il y a quelques instants, on parlait des personnages, du personnage fétiche de Christine Jordis. Lolita Pile, votre livre s'intitule Antigone Reine. Pourquoi avoir choisi la figure d'Antigone ?
Mais c'est étrange parce que depuis qu'on est entré dans ce studio, Émilie Brontë nous a un peu possédé. Mais
c'est vrai.
Et en fait, Antigone et Émilie Brontë justement sont pour moi des figures très très semblables. Et je dois reconnaître que je m'identifie à toutes les deux dans la mesure où Antigone. Faut-il redire ce que tout le monde sait ? Antigone, évidemment, se lève contre Créon. C'est la figure mythique grecque de la rébellion féminine, la rébellion de la fille, en l'occurrence la nièce, contre le patriarche, en l'occurrence l'oncle. Alors, il faudrait ouvrir une longue digression sur le fait qu'Antigone n'est pas la fille de Créon, mais sa nièce, mais on ne va pas pouvoir. Mais par ailleurs, Antigone, c'est également la sœur qui refuse que son frère, condamné par le même Créon pour avoir tenté de s'emparer du trône, pourrisse sans sépulture. Donc Antigone, c'est l'adolescente qui, davantage que le patriarche, est reliée et connectée à la voix des dieux d'en bas. Des dieux invisibles, des dieux infernaux, et ces dieux qui exigent d'elle que, au péril de sa vie, bravant les ordres du tyran, elle rende à son frère les honneurs qui lui permettront de vivre sa vie post-mortem. Émilie Brontë avait un frère qui était Branwell. Émilie Brontë savait tout des dieux d'en bas. Elle savait tout du monde d'après, si j'ose dire. Enfin, quand je parle du monde d'après, je ne parle pas du monde d'après le confinement, mais du monde d'après la mort. Et il y a un rapport, parce que Émilie Brontë et Antigone, vous me parliez de personnages, je vous parle d'une figure mythique et d'une écrivaine. Mais il se trouve que, bien entendu, nous parlons d'Antigone et d'Émilie Brontë en tant que personnages. Moi, je ne suis pas historienne de la littérature, et je n'ai même pas lu la bio de Mrs. Gaskell sur Émilie Brontë. Et je ne parle de ces deux personnages, qui sont Antigone et Émilie Brontë, qu'à travers ma propre intuition de leur voix.
C'est intéressant ce que vous dites sur l'Antiquité, le fait de choisir la Grèce. Je me permets de vous lire. J'admire les intuitions de la psychologie grecque, si juste, si durable. Aujourd'hui que les dieux se font plus discrets, c'est la société qui se prend pour dieu, avec une conviction passablement fanatique, cultivant un amour de la condamnation et de la punition, digne des ères les plus archaïques. Laissons le crime de côté, car en vérité, les dieux et la société aiment le crime. Mais s'il est quelque chose que ni les uns ni les autres ne supportent, c'est l'autonomie, qu'un sujet, à plus forte raison une femme, obéisse à ses propres lois. Moi, je trouve que là, on est au cœur de votre livre. C'était quoi le projet derrière Antigone Reine ?
C'est une question à laquelle je pourrais difficilement répondre. Ça a été une écriture intuitive tout du long. Le livre s'est composé de lui-même. Mais j'ai commencé à écrire les premiers chapitres pour parler de littérature à des personnes qui s'inscrivaient à des ateliers d'écriture que je donnais. Il y a eu une volonté pédagogique au début de l'écriture d'Antigone Reine, ce qui est assez, comment dire, insolent de ma part, dans la mesure où je n'ai moi-même pas fait d'études, pas eu de maître, et où j'ai cependant pensé que j'avais des choses peut-être pas à enseigner, mais à, je sais pas,
à transmettre,
proclamer ou précisément, j'essaye d'être la disciple de ma propre école. J'ai obéi à mes propres lois dans la mesure où j'ai tiré mes propres enseignements des livres. Et je me sers des enseignements que j'ai moi-même tirés des livres pour me lever à mon tour contre certaines formes de tyrannie.
Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans votre livre. Vous écrivez « J'imagine qu'une vie d'artiste, c'est la révélation progressive de la couleur qui domine au fond d'une âme. » C'est un peu la définition que vous pourriez donner du diamond.
Oui, alors... Bien sûr, je réponds à côté de toutes vos questions, c'est incroyable depuis tout à l'heure.
Mais vous avez le droit.
Je suis vraiment...
Vous obéissez à vos propres lois, y compris dans cette interview.
Non, je suis complètement après le temps. Non, parce que je voulais parler je voulais continuer de parler de cette féminisation, ce qu'on appelle à tort la féminisation, en disant que pour moi... Être au-dessus de la différence sexuelle, être supérieur à la différence sexuelle, ça n'était pas précisément si une femme en prétendant se rendre supérieure à la différence sexuelle se genrait au masculin, on serait précisément passé complètement à côté d'une supériorité à la différence sexuelle parce que ce serait embrasser et adhérer à l'idée que la différence sexuelle est une hiérarchie. Ce serait adhérer à l'idée qu'une femme qui joue dans la cour des hommes s'élève, tandis qu'un homme qui jouerait dans la cour des femmes s'abaisse. Je tenais à dire ça. Et je tiens aussi à dire quelque chose par rapport à cette histoire d'Emily Brontë et de personnages, que dans Les Hauts de Relevant, Emily Brontë se scinde en différentes voix. Elle est à la fois... La voix, évidemment, de Heathcliff, l'amoureux éconduit, le bâtard dénué de terre, dénué d'ethnie identifiée, qui clame des droits qu'il n'a pas sur la propriété et sur Catherine Earnshaw. Emily Brontë est la voix de Catherine Earnshaw, mais elle est également l'imprécation du vieux Joseph, elle est également les balbutiements de Ayrton, l'héritier spolié qui ne sait pas lire et qui ne sait pas s'exprimer, elle est également le vent qui gronde sur la lande, et ça, c'est ce que je pourrais appeler la littérature féminine, c'est-à-dire précisément quelqu'un qui n'étant pas obsédé, possédé par les loyautés que il ou elle devrait à son propre sexe, qui sera un sexe masculin, elle peut se métamorphoser, se multiplier et devenir la voix du cosmos tout entier. C'est ça que j'appelle être une écrivaine.
Alors là, je suis obligée de me tourner vers Irène Fenoglio, puisque votre livre s'intitule « Tout héritage est une métamorphose ». L'héritage littéraire en est une de métamorphose.
Bien sûr. Bien sûr, l'héritage est absolument multiple. Il n'y a pas de matrice, on ne le cerne pas, en fait. Je pense que ce que j'ai voulu dire à partir d'un itinéraire particulier, qui est celui de ma famille et des traces que j'ai pu récupérer et avec lesquelles j'ai pu tisser un lien avec moi, c'est qu'on hérite tous les jours, tous les matins. C'est une régénération. C'est ce qui constitue ce que l'on est et que l'on ne peut pas identifier en une entité, un bloc. C'est vraiment un processus. Et C'est pourquoi je l'ai appelée métamorphose. C'est vraiment une métamorphose. Il y a bien sûr des lignes directes où on dit, où on trouve « Ah, j'ai reçu telle parole de ma mère ou de mon père et j'en ai fait ça ». Bien sûr, ça c'est possible, mais il y a des tas de choses que l'on ne sait pas, que l'on peut ressentir, que l'on peut découvrir. Et vraiment, c'est un processus régénérescent de tous les jours.
Irène Fenoglio, j'aimerais qu'on entre plus en détail dans votre livre. Tout héritage est une métamorphose, mais d'abord on écoute Mickey, ça pique un peu quand même.
Il y a des pistes dans ses yeux pistaches, je peux pas mieux faire. Il y a des bots qui font tout à notre place, à partir un coup quand on a rien à faire. Sourire avec les yeux quand il sait si bien le faire, bâtard. C'est le monde à l'envers, c'est moi qui me demande si je fais pas tout de travers. Mais j'arrive pas à lui plaire, j'essaie de trouver la femme, mais y'a rien à faire. Je raccroche mon tête, je me parle à moi-même, mais de fou, c'était ça que je voulais au début. Moi aussi, ouais, putain, trop bien. Être pote, c'est ça, ça tombe à pic, mais ça pique, pique, pique un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour ma pomme depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Comme un célibataire de 30 balais. Et quand ça sonne dans ma porte, c'est pour voisin d'en bas. Et même quand c'est la pause, bossez jamais pour moi. Moi je suis là, j'ai des tailles, mais des lèvres dans le frigo. Y'en a un peu trop, je pensais que tu viendrais, mais je suis solo. Du coup, je reste dans ta friendzone. Mais c'est pic 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 un peu quand même. Je cuisine pour une personne depuis au moins 6 semaines. Ça fait tic tic un peu quand même. Pip pip, ça me fout l'air. Mais c'est pic 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 un peu quand même.
Bienvenue dans l'émission Etc. Nous sommes toujours en compagnie des écrivaines Christine Jordis, Lolita Pil et Irène Fenoglio. C'est l'heure du conseil lecture de la semaine.
Au livre, Etc. Lilia Hassen.
Alors, je vais revenir à vous, Irène Fenoglio, puisque c'est mon conseil lecture de cette semaine. Mm-hmm. Votre livre « Tout héritage est une métamorphose » paru aux éditions Albin Michel. C'est une enquête intime dans laquelle vous traquez les traces immatérielles de vos parents pour montrer que l'on ne naît pas seulement d'un seul, mais des mots que l'on reçoit, et surtout de ceux que l'on parvient à transformer. Est-ce que c'est bien résumé ?
Ce livre est parti, ouais, en effet, d'un hommage que je voulais faire à mes parents. Ça date de, ça vient de très loin. Je me suis mise à l'écrire beaucoup plus tard, après l'idée qui m'en est venue. Effectivement, c'est montrer que toute personne, quelles que soient les conditions de sa vie, quelle que soit la situation dans laquelle elle naît, va forcément laisser des traces dans cet univers. Et ceux qui suivent ces personnes reçoivent, soit en le sachant, soit sans le savoir, à leur insu, énormément de choses, négatives, positives. Tout dépend de ce que la personne va en faire.
Vous donnez un exemple intéressant. Vous racontez que votre père était un homme taiseux, dont vous avez hérité davantage par l'observation de ses mains et de ses gestes de maçon que par ses paroles. Est-ce que votre passion pour la linguistique et l'énonciation est une manière de donner une voix à ce silence paternel et à cette force de travail sur la matière ?
Je ne saurais pas répondre directement, sans doute. Ce qui est vrai, c'est que j'ai commencé par faire de la philosophie, pendant assez longtemps, jusqu'à ma maîtrise avec Emmanuel Lévinas. Et tout d'un coup, je me suis dit, je suis toujours dans le discours, dans le discours, dans le discours sur le discours. Et j'avais envie de matérialiser, de toucher quelque chose. Et à ce moment-là, j'ai appris l'arabe, que j'avais commencé il y avait très très longtemps, comme ça, par curiosité. Donc j'ai appris l'arabe au Langso, j'ai fait un peu d'hébreu, et ces langues, ces mythiques m'ont montré qu'effectivement, il y avait une matérialité. Parce que le langage est immatériel, mais il est matériel quand même. On le touche, il nous traverse, il traverse notre corps. Donc j'ai été éblouie par le fait que, oui, il y avait des systèmes linguistiques complètement différents, qui fonctionnaient complètement différents des langues latines que je connaissais, par lesquelles bah, on pouvait forcément s'exprimer et de façon... Donc ça, c'est vrai que...
C'est intéressant de travailler sur le discours alors que votre père, justement, était quelqu'un de taiseux.
Oui, mais mon père m'a... comment dire, il nous éveillait à certaines questions qui m'ont poussée vers la philosophie, d'ailleurs. Mais comme il ne parlait pas de lui, effectivement, il parlait, mais pas de lui.
Alors, il y a une chose qui est très intéressante dans votre livre, c'est que donc vous travaillez sur un héritage dont vous dites qu'il est mouvant. Et je me suis demandé comment vous aviez fait avec l'écriture, parce que l'écriture fixe aussi, on pourrait parler de la poésie, mais l'écriture en prose a tendance à fixer. Comment on fait pour, avec l'écriture, avec cet outil-là, pour dire précisément ce qui est mouvant, toujours en mouvement et souvent inconscient, et vous proposez une solution, vous dites « je ne peux donc qu'écrire qu'en temps mêlé, présent, passé, intemporel, les temps divers et variés qui nous habitent à chaque instant, voire qui nous assaillent, c'est la seule vérité que j'entrevois. Raconter ma vie, je ne sais pas. » C'est la solution formelle que vous avez trouvée.
J'ai beaucoup écrit scientifiquement. Et je dirais que c'est toujours difficile, l'écriture est toujours difficile, mais il y a quelque chose de reposant, parce qu'on a acquis un savoir, on va essayer de le faire passer, de le transmettre en disant d'où on est parti, ce qu'on a fait, les expériences et à quel point on arrive. Et là, j'ai dû rompre avec cette écriture pour ce livre-là. Je suis partie d'un hommage à mes parents et après, il est venu, des tas de choses sont venues durant ce processus d'écriture que j'ai dû garder ou pas garder ou aménager. Et effectivement, c'est une écriture très différente, plutôt associative, je dirais. Je me suis laissée libre de laisser venir ce qui... Et je me suis dit, c'est ça l'héritage, c'est aussi les personnes qu'on lit. On écrit une phrase et tout d'un coup, on pense à un écrivain qu'on a lu et on va rechercher la phrase. Et
moi, c'est voilà. Ce que j'ai aimé dans votre livre, c'est cette multiplicité justement de voix, de ces temporalités qui changent. Effectivement, c'est cet héritage qui est multiple, complexe et
qui ressemble d'ailleurs aussi à ce qui se passe, ce que nous apprend la psychanalyse, qu'il n'y a pas une linéarité parfaite, il n'y a pas la pureté d'un récit. Il y a des tas de choses qui sont amalgamées au fur et à mesure que l'on écrit ou que l'on parle.
Écoutez, merci Irène Fenoglio. Merci à
vous.
Toutes les trois.
Merci
Christine Jornis, Loli Tapine et Irène Fenoglio. Donc, c'est la fin de cette émission. Je recommande vivement vos ouvrages Passion anglaise de Christine Jornis, publié aux éditions Bouquin. C'est une biographie intérieure, érudite et sensible, une invitation à retrouver au fil des paysages et des lectures le territoire d'une enfance enchantée. Je conseille aussi Antigone Reine de Loli Tapine au Cherche Midi, un manifeste flamboyant qui érige la fiction en rempart contre le chaos et nous enjoint de mourir de beauté plutôt que de céder à la marchandisation de nos souffrances. Et enfin, lisez « Tout héritage est une métamorphose » d'Irène Fenoglio, paru chez Albin Michel, une archéologie de la tendresse et du langage, où l'on apprend que nous n'avons pas de racines, mais des pieds pour marcher et nous éloigner des sources, afin de mieux nous construire. J'aurais aimé qu'on dise un mot de la traduction, on n'a pas le temps. Merci à Raphaël Longo, notre libraire du jour, ainsi qu'à mon équipe, Lignan Alôme à la réalisation, Estelle Gap et Ethel Alzial à la programmation. Je rappelle qu'Olivre, etc. est une coproduction de la RTBF, la RTS et Radio-Canada. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver samedi prochain pour une nouvelle émission.